VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 17 janvier 2018, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Le général Faustin Munene, ex-chef d'état-major de la RDC, arrêté au Gabon il y a quelques jours. En Côte d'Ivoire, Lida Kouassi, l'ancien ministre de la Défense de l'ex-président Laurent Gbagbo, s'est dit prisonnier politique au deuxième jour de son procès. Au Burkina Faso, poursuite des négociations entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement. Au Nigeria, deux nouvelles attaques de Boko Haram, dont 9 morts dans le nord-est. Steve Bannon, ex-éminence grise du président américain Donald Trump, cité ici aux États-Unis, à comparaître devant le procureur spécial. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. République démocratique du Congo, arrestation il y a quelques jours au Gabon d'un ex-chef d'état-major congolais, le général Faustin Munene. Il était recherché depuis 2011, Raissa Girondin.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le général Faustin Munene a été arrêté le 10 janvier au Gabon, selon un communiqué de son parti. Il serait actuellement aux mains des services de renseignement gabonais à Libreville. Faustin Munene est soupçonné par Kinshasa d'avoir commandité en 2011 une attaque contre la résidence du président Joseph Kabila et un camp militaire qui avait fait 19 morts. Il est aussi accusé de tentative de coup d'État dans la province du Bandundu en 2010. Le général Munene a été arrêté à la mi-janvier 2011 à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Brazzaville avait refusé de l'extrader vers Kinshasa qui avait rappelé son ambassadeur en signe de protestation. Le général-major Munene a été vice-ministre de l'Intérieur et chef d'état-major des forces armées congolaises sous Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel président, assassiné il y a 17 ans, le 16 janvier 2001.
En Côte d'Ivoire, Lida Kouassi, l'ancien ministre de la Défense de l'ex-président Laurent Gbagbo, a nié hier les accusations de complot contre l'autorité de l'État devant la cour d'assises d'Abidjan. Il s'est présenté comme un prisonnier politique au deuxième jour de son procès. Au Burkina Faso, les négociations se poursuivent entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement. À la suite de près de 2 heures de conclave hier, les deux parties ont annoncé des avancées pour sortir de la crise qui paralyse le système éducatif du pays. Bagassi Koura.
À l'issue de la rencontre hier, le Premier ministre Paul Kaba Tchéba a dit qu'il avait foi que dans un avenir proche, nous allons trouver une solution définitive. Les syndicats de l'éducation ont annoncé des avancées significatives sans donner de détails, mais exigent que les promesses du gouvernement soient consignées dans un document. Les deux parties doivent se retrouver à nouveau ce mercredi. Depuis plusieurs mois, les enseignants du Burkina observent des grèves, des sit-ins et des arrêts de travail pour réclamer de meilleures conditions de travail. Le système éducatif en est tellement perturbé que dans certaines villes, les élèves ont organisé des manifestations pour exiger la satisfaction des revendications de leurs enseignants.
Au Nigeria, 9 personnes ont été tuées, selon l'AFP, au cours de 2 attaques séparées de Boko Haram dans le nord-est. Le groupe djihadiste a multiplié les raids, tueries et attentats de manière quasi quotidienne dans toutes ces régions depuis le week-end de Noël. Au Ghana, la police a annoncé hier qu'elle enquêtait pour savoir si 3 suspects arrêtés la veille étaient liés à des groupes extrémistes. Ces interpellations ont eu lieu à la suite de la découverte d'explosifs dans la capitale, Accra.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le département américain de la justice va, mesure plutôt rare, saisir sans attendre la Cour suprême pour annuler la décision d'un juge de Californie bloquant la fin du programme DACA décrété par le président Donald Trump. Ce programme protège contre l'expulsion de centaines de milliers de jeunes arrivés enfants illégalement aux États-Unis en compagnie de leurs parents. La Cour d'appel de San Francisco ne s'est pas encore prononcée sur le cas. Steve Bannon, ex-conseiller ultra-conservateur du président Trump, a été cité à comparaître devant le procureur spécial qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. L'ex-stratège en chef de la Maison-Blanche a aussi témoigné hier devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants sur le même sujet. Le point avec Abdulrahman Dia.
Selon le New York Times, l'assignation à comparaître a été envoyée par le procureur spécial Robert Mueller, qui mène l'enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Steve Bannon, longtemps présenté comme l'éminence grise du président à la Maison-Blanche, a témoigné pour la première fois à huis clos hier devant la commission de la Chambre des représentants. Il a dirigé la campagne de Donald Trump dans la dernière ligne droite et a été l'un de ses conseillers durant les 7 premiers mois de sa présidence. Le livre récent de Michael Wolff, Le feu et la fureur, fait dire à Steve Bannon que le fils aîné du président a commis une trahison en rencontrant une avocate russe qui disait avoir des informations compromettantes sur Hillary Clinton avant l'élection. M. Bannon, 64 ans, a été mis à l'écart en août dernier et de leur côté, les enquêteurs ont déjà procédé à plusieurs inculpations, dont celle de Paul Manafort, ancien directeur de campagne du candidat Donald Trump.
Les ministres des Affaires étrangères de 20 pays réunis à Vancouver au Canada ont insisté sur la nécessité de maintenir la pression maximale sur la Corée du Nord en accentuant les sanctions jusqu'à ce que Pyongyang renonce à son programme d'armement nucléaire. Cette réunion a eu lieu quelques jours après une fausse alerte à Hawaï sur un lancement de missiles, une panique qui a rappelé les craintes au sujet d'une éventuelle agression nucléaire nord-coréenne. Selon le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, les ministres présents ont envoyé un message clair au leader nord-coréen Kim Jong-un, à savoir qu'ils n'accepteront jamais une Corée du Nord dotée d'armes nucléaires. Il a demandé à la Chine et à la Russie, qui n'étaient pas représentées à Vancouver, d'appliquer pleinement les sanctions des Nations Unies contre Pyongyang. La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Investir dans la sécurité routière permettrait aux économies à faibles revenus et à revenus intermédiaires d'augmenter le produit intérieur brut. D'après la Banque mondiale, les accidents de la route ont un effet négatif sur les perspectives de croissance à moyen et long terme. Le manque à gagner est estimé entre 7 et 22% du produit intérieur brut sur 24 ans. Une étude indique qu'une réduction de 10% de la mortalité routière favorise une augmentation de plus de 3% du produit intérieur brut. La Banque de commerce et de développement a octroyé au Kenya un prêt de 750 millions de dollars sur 7 ans. Ce financement servira à rembourser les créanciers. Cette année, Nairobi compte mobiliser sur le marché international de la dette 1,5 milliard de dollars. Le Cameroun veut un nouvel opérateur pour moderniser l'exploitation et la maintenance du terminal à conteneurs du port de Douala, Bonaberry. Un appel d'offres a été lancé pour remplacer le couple Bolloré à PMT, dont la concession prend fin dans 2 ans.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Edessa, bonjour à tous.
Le Congo prend la tête du groupe D au championnat d'Afrique des Nations.
Oui, le Congo qui n'a pas démontré grand-chose hier face au Cameroun, mais a quand même remporté son premier match du CHAN 2018 grâce à un pénalty signé Junior Makessé, l'attaquant des Léopards de Dolisi. Les Diables Rouges qui prennent donc la tête du groupe D après cette victoire à Agadir. On écoute l'entraîneur congolais Barthélémy Ngatsono. Il est satisfait après le match.
Ça nous a donné vraiment du fil à l'automne. Je vois cette équipe en finale. Et moi, ce que j'ai pu suivre, techniquement, tactiquement et physiquement, ça a répondu. Bon, c'était notre jour. Ils ont joué un peu à la malchance, comme il a dit. Nous avons saisi d'une opportunité pour concrétiser. Hier, je disais que toutes les équipes se valaient, qui n'ont fait pas de favoris et tout. Voilà, ça c'est une preuve. Donc, je souhaite une bonne continuité à mon ami de l'Afrique centrale.
Le sélectionneur congolais Barthélémy Ngatsono, satisfait après ce match et cette victoire face au Cameroun. Déception en revanche pour Rigobert Song, le sélectionneur des Lions indomptables, qui se complique la tâche en vue d'une qualification pour les quarts de finale.
Tout simplement qu'on a vu les deux équipes développer plusieurs. Il y avait quand même beaucoup de passer à l'intérieur et vraiment dans l'ensemble.
C'est vrai qu'il a fallu de petites choses qui ont fait la différence. Donc, je pense qu'une n'a été à la hauteur de ce qu'on pensait, mais on a été tous présents et je suis très fier, enfin satisfait du coach qui, lui, a pu concrétiser, avoir les rares occasions qu'il a pu avoir, il les a concrétisées. Ce qui était différent pour nous. Donc, je pense que c'est une raison. On va se mettre, se préparer pour le prochain match et pour concrétiser notre action.
Rigobert Song, l'entraîneur du Cameroun. Ce matin, le Congo-Brazzaville est donc premier du groupe D devant les Burkinabés et les Angolais. Les deux pays n'ont pas pu se départager hier 0-0 à Agadir, malgré une large possession de balles des étalons du Faso. On écoute le capitaine des étalons locaux, Baba Youré Sawadogo.
On est tombé sur une grosse équipe de l'Angola ce soir. Ils nous ont dominé un peu tactiquement. La stratégie du coach aussi était d'attendre l'adversaire. Je pense qu'on a trop compris. On a essayé d'attendre un peu l'adversaire. Mais là où on devait attaquer, on n'a pas pu attaquer. Je pense que c'est des choses à corriger. On a eu la chance de marquer, mais on n'a pas pu concrétiser cette occasion. On va travailler pour préparer vraiment sereinement le match à venir. Et en début de compétition, je pense que le match nul, c'est bon à prendre.
Le capitaine des étalons locaux, Baba Youré Sawadogo.
Le Maroc espère empocher une deuxième victoire cet après-midi à Casablanca.
Face aux Séries nationales de Guinée battues lors du premier match, les Lions de l'Atlas pourront compter sur leur public au stade Mohamed V. Les précisions d'Amine Birouk au Maroc pour VOA Afrique.
Jamal Selami, le sélectionneur du Maroc, a certainement coché le nom de la Guinée sur la feuille de route qui doit mener les Lions de l'Atlas vers le prochain tour du CHAN 2018. Quatre jours après avoir dominé la Mauritanie en ouverture, les Marocains ont l'obligation ce mercredi de l'emporter devant le Sili National pour s'assurer le sésame des quarts de finale. Pour cela, ils devront sortir le grand jeu face à un adversaire dos au mur. En effet, la Guinée s'est inclinée d'entrée devant le Soudan, 1-2, et n'a plus droit à l'erreur. Les hommes de la paix Bangoura devront pour cela se montrer plus rigoureux en défense et plus efficace en attaque et surtout résister à des rivaux qui joueront devant leur public. Ils seront d'ailleurs près de 40 000 supporters au complexe Mohamed V de Casablanca, un élément que Jamel Selami prendra certainement en compte dans sa feuille de route. Depuis Agadir au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Et en face, Lapé Bangoura, le sélectionneur des Guinéens, espère que son équipe pourra faire déjouer le pays organisateur.
Je crois à partir de là, on a eu le temps de corriger nos quelques faiblesses, surtout sur le plan défensif, on va revoir. Et j'ai dit quelque part, on n'a pas été réaliste à ce match, sinon je crois que ce n'était pas la logique de ce résultat. Après, on a vu le Maroc jouer, nous tiendrons compte avec tous les avantages qu'il a, peut-être du public, les atouts peut-être de préparation, mais je pense qu'on s'est préparé mentalement et puis nous viendrons très solides et puis sans complexe.
Lapé Bangoura, le sélectionneur de la Guinée. Quant à la Mauritanie, elle fera face au Soudan. Le sélectionneur des Mourabitoun, Corentin Martins, espère que son équipe montrera un autre visage.
J'espère que contre le Soudan, on saura répondre présent au-delà de penser aux résultats. C'est surtout dans l'attitude et dans la prise d'initiative qui est importante pour espérer quelque chose. En tout cas, le football reste toujours un jeu et il faut prendre du plaisir. Et là, je pense que les joueurs n'en ont pas pris beaucoup samedi. Et j'espère que ce sera différent mercredi et qu'on montrera un autre visage.
Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie. Toutes ces infos sur le CHAN 2018 à retrouver sur notre site internet voaafrique.com et notre page Facebook.
Cyclisme tropical à Missa Bongo.
Ah oui, l'Australien Brenton Jones de l'équipe française d'Elco Marseille a remporté hier la deuxième étape de la Tropical à Missa Bongo. Elle se courait sur 175 km entre Ndende et Fougamou. Elle a été conclue au sprint. Jones est le premier coureur australien à remporter une étape sur la course gabonaise. À noter que l'Allemand Lucas Kartensen, vainqueur sur surprise, lundi de la première étape, il a terminé troisième et conserve le maillot jaune. La troisième étape, c'est aujourd'hui 114 km entre Fougamou et Lambaréné. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Minnesota et Orlando 102-108, New Orleans et Boston 116-113, Dallas et Denver 102-105.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, après l'arrestation du général Norbert Dabira, un autre général, Nyanga Mbwala Ngatse, a été écarté de la tête de la garde républicaine avant d'être interpellé par les services de la police. Cette situation plombe la vie dans les rangs militaires, nous dit notre correspondant sur place, Ngwela Ngusu.
Depuis l'arrestation le 10 janvier du général Dabira, la tension est palpable dans les rangs des forces armées congolaises. Les plus folles rumeurs, distillées dans les réseaux sociaux, font état d'une liste d'officiers qui rejoindront bientôt ce général proche de Sassou Nguesso dans les cellules de la DGST. D'après les informations qui courent la rue, car jusque-là aucune déclaration officielle, le général Dabira aurait fomenté un coup d'état tentant d'abattre en plein vol l'avion présidentiel. Les organisations des droits de l'homme appellent les autorités à clarifier cette situation. Trésor Ndila Kende est le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
C'est pas parce qu'on est une autorité ou un officier supérieur qu'on est à l'abri d'une interpellation. Mais il y a encore le flou sur sa situation. Vous savez bien que le Congo a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et donc, il est clairement établi que toute personne interpellée doit être notifiée très rapidement des motifs qui lui sont reprochés.
La version du coup d'État passe très peu au niveau d'anciens militaires qui pensent plutôt à une histoire boutiquée de toutes pièces. Jean Bosco Pankima, un ancien prisonnier dans l'affaire du 4 mars 2012, n'y croit pas.
Étant prisonnier pour l'affaire du 4 mars, le général Dabira a été l'un des premiers à passer au procès et nous dédouaner en tant qu'inspecteur de l'armée. Par la suite, il était parti à Paris déclencher l'affaire pour laquelle ils étaient jugés avec Nsourou. D'après mes analyses, c'est tout simplement parce que les gens veulent l'enfermer pour étouffer cette affaire des disparus du Beach. Et comme ici, on invente les motifs, on en a trouvé un motif qu'on a inventé.
Après l'arrestation du général Dabira, un autre général, Nyanga Mbwala Ngatse, a été débarqué du commandement de la garde républicaine où il a servi pendant 5 ans. Une convocation des services de la police lui a été aussitôt servie. Pour Luamba Moké, président de l'Association des droits de l'homme et l'univers carcéral, la justice doit désormais se saisir de ce dossier.
Parce qu'il y a d'abord la présomption d'innocence. Mais cette présomption d'innocence est vérifiable. Ce n'est pas la DGST. La DGST n'est pas un appareil judiciaire. La DGST, pour nous, c'est une police politique.
La sérénité règne à Brazzaville, bien que chaque soir, les militaires continuent de poser les barrières et de fouiller les véhicules. Ngwela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
En République centrafricaine, consternation à Bangui après le non-lieu prononcé par la justice française dans l'affaire de la dizaine de soldats français de l'opération Sangaris accusés d'avoir violé des enfants dans le sud de déplacés de l'aéroport de Bangui. Ce non-lieu a surpris plus d'un dans la capitale centrafricaine, Freeman Sipila.
À l'annonce de cette nouvelle, la consternation a vite gagné la capitale centrafricaine. Dans les rues, cette décision est mal accueillie, même si certains gardent encore un brin d'espoir, comme ils le confient au micro de VOA Afrique.
Comment est-ce qu'il n'y avait pas de preuves? Il y a des preuves. S'il n'y avait pas de preuves, les gens ne pouvaient pas dire de n'importe quoi.
Quoi que des preuves ne manquent pas. Donc il va falloir que la justice fasse son travail et que le gouvernement se mette pour que la situation soit... Je pense que ce n'est pas encore tard. C'est une justice, on peut à un moment donné demande à ce qu'on revienne sur cette décision pour que nos parents violés puissent être revus dans l'ordre.
Ces victimes ont droit à la réparation. Mais pour le moment, s'ils ne sont pas reconnus comme coupables, donc quitte à ces organisations internationales de voir comment on peut donner réparation à ces victimes, puisque c'est aussi important.
Les preuves sont là et nous pouvons le vérifier auprès de ceux qui étaient à l'aéroport pour dire que vraiment, ils ont violé au vu au-dessus de tout le monde. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. passer, non. En tout cas, c'est pas la justice.
Selon la justice française, les incohérences matérielles et la variation des témoignages n'ont pas permis d'établir des faits circonstanciés à l'encontre des militaires suspectés. Argument qui fait réagir Francis Mongombi, président de la jeunesse centrafricaine.
Je me questionne, comme tous centrafricains, à quelle fin les victimes ou les supposées, les présumées victimes ont-ils annoncé au monde entier qu'ils ont subi de tels méfaits? À quelle fin? Donc je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Aussi petite soit cette fumée, nous voulons voir d'où elle vient. Ne fût-ce que ça soit un acte de violence, tentative, que sais-je encore, mais nous voulons savoir. Et moi je dis encore que la précipitation du verdict nous laisse poser des questions.
Pour le moment, les organisations de défense des droits de l'homme et celles des victimes de la crise se réservent encore de commenter cette décision. Cependant, Maître Denis Modomadé, avocat au barreau de Centrafrique, s'est dit surpris. Il s'interroge sur le suivi du dossier par les autorités centrafricaines.
Je ne sais pas comment le dossier a été suivi, mais j'ai quand même été surpris de la décision de non-lieu par rapport aux éléments de l'opération Sangaris en Centrafrique qui avait été mise en cause dans cette affaire. Je suis quand même un peu désolé par rapport à cela et j'ai cru entendre que les ONG qui étaient en charge de ce dossier ont fait appel de la décision. C'est une très bonne chose, ça voudrait dire que tout n'est pas encore fini et qu'on pourrait rattraper cela.
Une dizaine de soldats de l'opération française Sangaris, déployés fin 2013 en Centrafrique, étaient accusés de viol sur mineurs. L'affaire concernait des faits qui se seraient déroulés entre décembre 2013 et juin 2014, six enfants âgés de 9 à 13 ans ont dénoncé des abus sexuels commis par ces militaires dans le camp de déplacés de l'aéroport Bangui Poco en échange de nourriture ou de l'eau. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Tchad, en application de la loi des finances 2018, des augmentations de prix ont été constatées par les populations. Le prix de l'essence, du gaz butane, du gasoil et autres ont connu une hausse avec des répercussions sur le coût de la vie déjà jugé cher. Cette hausse, qui fait suite à la décision du gouvernement de ne plus baisser les salaires, suscite indignation et consternation dans le pays. Yacouba Ouedraogo a joint Michel Barka, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Ce n'est pas la première fois, le gouvernement l'année dernière, pour des raisons de crise financière, dit-il, avait pris des mesures. Elles sont toutes impopulaires, mais finalement, qui n'ont donné aucun résultat. Cette année, il nous a arrivé encore une fois une nouvelle surprise, des augmentations tous azimuts, des prix des denrées, des prix du carburant, augmentation des impôts, des taxes d'habitation.
Est-ce que vous pouvez nous donner des données chiffrées de ces augmentations-là? Et c'est quel secteur ça concerne?
L'impôt concerne des secteurs privés comme publics. Se concerne créé dans la loi de finances, ça n'épargne personne et tous les secteurs sont concernés. La taxe de l'augmentation du prix du carburant, par exemple, c'est toute la population. Chez nous, le moulin est dans tous les quartiers avec l'augmentation du prix du carburant, avec l'augmentation des taxes sur le moulin lui-même. Alors, imaginez ce que ça fait comme répercussion du coût au niveau du consommateur. La loi de finances vient juste d'être rendue publique. Nous sommes en train justement de faire un travail pour déterminer exactement ce que ça représente en pourcentage, la baisse de notre pouvoir d'achat.
Comment réagissent les populations face à ces nouvelles augmentations, puisque qui dit augmentation d'impôts parle bien sûr d'augmentation des denrées alimentaires et autres?
Pour cette fois-ci, unanimement, on se rend compte que les gens ont été touchés. La population est en désaccord total avec toutes les mesures qui sont prises et ça se lit dans tous les visages, dans les rues, dans les journaux et partout. Les gens expriment leur ras-le-bol du comportement du gouvernement.
Cette hausse des impôts, vous l'avez dit, est prévue dans la nouvelle loi de finances 2018, et donc une loi normalement qui a été adoptée en décembre, cela ne devait pas surprendre.
C'est même une histoire assez bizarre, parce que par rapport aux abattements, par exemple, vous ne trouverez pas cela indiqué clairement dans la loi des finances. Mais pour les impôts, au moins, c'est clairement indiqué.
Pourquoi n'avoir pas combattu l'adoption de cette loi de finances-là et d'attendre qu'elle soit appliquée pour réagir?
Ça, c'est une très bonne question. La loi des finances ne se discute pas comme ailleurs, où il y a des réunions, il y a des discussions budgétaires qui font participer les gens, hein, de manière un peu Front Populaire avec des réactions pour arranger tout avant d'être publié. Chez nous, c'est en quelques heures au niveau de l'Assemblée que la loi des finances est adoptée. Et très souvent, d'ailleurs, à l'insu de tout le monde, hein, c'est déplorable, mais comme ça, ça se passe.
L'opposition se trouve à l'Assemblée et donc, à défaut de pouvoir empêcher la loi de finances de passer, elle pourrait au moins publier son contenu avant adoption.
Les députés ne la discutent pas en deux jours. Cette année, par exemple, c'est en quatre heures que la loi des finances a été adoptée. Vous ne pouvez pas avoir le temps de regarder et réagir.
Que comptez-vous faire maintenant?
Nous n'avons pas accepté qu'on nous applique des augmentations des impôts qui vont encore considérablement réduire notre revenu. Nous préparons à dire non au gouvernement.
Michel Barka, président de l'Union des syndicats du Tchad, joint N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Cameroun, l'Institut ophtalmologique d'Obac soigne depuis mars 2017 les maladies de la vue de nombreux patients du pays, mais aussi de la sous-région. Appelé l'hôpital des yeux d'Obac, l'Institut est situé à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale. Correspondance à Yaoundé de Emmanuel Juntap, qui s'est rendu sur place.
Il y a 11 ans, Jérôme Abada perdait totalement la vue. Âgé aujourd'hui de 84 ans, Jérôme savoure ce qu'il appelle lui-même le retour à la vie après une opération réussie de son œil gauche. Avec quelques larmes d'émotion, dans une salle des patients internés de l'hôpital, Jérôme Abada raconte à VOA Afrique.
Le jeune docteur même qui m'avait opéré les yeux, je ne peux pas le reconnaître parce que je ne voyais pas. Deux jours après, on a enlevé le pansement. Un prodige. Je vois encore la lumière du jour. J'étais déjà contre Dieu. Que pourquoi, à mon âge, il faut abréger ma souffrance, que je meure. Mais Dieu a envoyé ma famille, que voici, hôpital des yeux.
L'hôpital des yeux a aussi ouvert ses portes à Anastasie, une étudiante atteinte de myopie, qui répond ce jour à un rendez-vous avec l'ophtalmologiste.
Je ne vois pas bien de loin, mais je vois bien de près. Et c'est de bouche à oreille, des aînés, des amis qui sont arrivés ici. Ils m'ont demandé de passer pour faire un bilan de mes yeux.
Depuis le 29 mars 2017, date des premiers soins dans cet hôpital, les malades affluent de tout horizon. L'hôpital doit surtout sa réputation aux opérations réussies de la cataracte, l'une des principales causes de la cécité au Cameroun. Dr Henry Koumbé, médecin-chef de l'hôpital des yeux d'Obac.
Nous avons pu effectuer 591 opérations de la cataracte. Cette année-ci, on devrait pouvoir aller au-delà de 2500. Nous voulons aller davantage dans des endroits reculés, pouvoir servir les personnes défavorisées pour qu'elles puissent avoir accès à la chirurgie de la cataracte.
L'hôpital bénéficie aussi du soutien de l'agence publique américaine Overseas Private Investment Corporation. David Boyijen, vice-président de la dite agence, en visite dans les locaux.
Cet institut n'est pas seulement un symbole de la vie pour les malades de la vue. Il est aussi le symbole d'une bonne coopération entre le gouvernement camerounais et américain. Cet institut est la preuve que l'on peut mettre ensemble les fonds privés issus des organisations non gouvernementales et les fonds publics pour la résolution des questions de santé dans le monde.
L'hôpital des yeux d'Obac offre plusieurs services à des coûts sociaux, parmi lesquels l'ophtalmologie générale, la correction de la vue au laser, les soins spécifiques pour les maladies de la vue affectant les enfants, ou encore les conseils en lunetterie et optique. Emmanuel Jelutap, de retour de BAC, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Zoom sur le championnat d'Afrique des nations de football, plus connu comme le CHAN, la compétition qui se dispute au Maroc du 13 janvier au 4 février met en vedette des joueurs n'évoluant que dans des clubs africains. Quelle équipe a le plus de chances de décrocher le trophée 2018? Mais au fait, pourquoi le CHAN a été créé en 2009 par la Confédération africaine de football? Parvient-il à promouvoir et développer le foot africain? Les championnats locaux en tirent-ils profit? Et est-il temps de lancer un CHAN féminin? Washington Forum, ce jeudi, à 19h08.
Le monde. Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.